RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. La Russie est prête à aider à renforcer l'armée indonésienne. Madame Christine Lagarde rappelle l'importance de préparation pour faire face à la révolution numérique. Le ministre du Commerce assure que le riz importé ne laissait pas aux agriculteurs. Le président Jokowi invite Christine Lagarde à visiter le RSPP. Il y a des réunions du FMI et de la Banque mondiale. L'Indonésie prépare 6 destinations touristiques en dehors de Bali. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La Russie a déclaré qu'elle était prête à aider l'Indonésie à développer et renforcer le domaine militaire. Cela a été dit par l'attaché militaire de l'ambassade de Russie à l'Indonésie, le colonel Nikolai Nikolayuk, dans son discours de la célébration de la journée des forces armées russes à Jakarta lundi. Il a déclaré que les relations entre les deux pays ont atteint une nouvelle phase, notamment dans le domaine militaire. Selon lui, la Russie est prête à aider à développer et renforcer l'armée comme l'Indonésie le veut. À l'heure actuelle, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de cette relation, notamment dans le domaine de la défense. Nous sommes très actifs dans la coopération militaire. Progressivement, nous améliorons nos compétences militaires. Je pense que vous avez entendu les résultats pratiques de cette coopération. La Russie est prête à développer ce processus et l'Indonésie est prête également à le faire. Selon Nikolayuk, les relations entre la Russie et l'Indonésie avaient une très longue histoire. Depuis le début de l'indépendance indonésienne, la Russie a fourni le soutien politique et militaire à l'Indonésie depuis sa création en 1945. Les deux pays ont également une bonne relation et une vaste expérience de coopération, qui peut être une bonne base pour le développement des relations amicales entre les deux pays. La directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde, a rappelé l'importance de la préparation pour faire face à la révolution numérique qui commence lentement à changer les structures économiques régionales et mondiales. Lors de la conférence internationale de haut niveau à Jakarta mardi, il a déclaré que l'amélioration de la qualité de l'infrastructure numérique et la création d'un système éducatif approprié pour l'avenir était la meilleure façon de faire face à la révolution numérique. Dans une conférence avec le thème « Les nouveaux modèles de croissance dans un paysage mondial en mutation », Mme Lagarde a ajouté que la gestion de la transition dans un changement était très importante parce que cela est lié à la création d'emplois. Elle a donné un bon exemple dans l'utilisation de la technologie de l'information pour la création de la main-d'œuvre et l'entreprise de start-up Gojek, qui fournit non seulement des services de transport, mais aussi d'autres services de paiement et de services. En outre, il a conseillé à l'Indonésie, aux autres pays de l'ASEAN, de rendre l'économie plus inclusive afin de résoudre l'écart en créant un nouveau modèle de croissance économique. Le ministre du Commerce, Enggartia Solukita, a déclaré que le riz importé par le gouvernement était un stock supplémentaire pour réduire le risque de pénurie de matières premières. Mardi, lors d'une visite de travail à Indramayu, il a confirmé que le riz importé n'entrerait pas sur le marché. Il a également assuré que les agriculteurs ne doivent pas s'inquiéter de la récolte qui ne sera pas absorbée à cause du riz importé. Boulogne s'est engagé à observer la récolte de riz et de riz non décortiqué conformément aux dispositions en vigueur. Il a assuré qu'avec la politique d'importation de riz, les agriculteurs ne seront pas laissés et la récolte sera toujours abordée par Boulogne.
Sekali lagi kita memastikan apa yang sudah disampaikan bahwa.
Encore une fois, nous nous assurons que le riz importé que nous utilisons pour la réserve et n'inquiétez pas parce que nous faisons toujours des opérations de marché comme hier. Tous les marchands de riz sur le marché traditionnel augmenteront le prix que nous avons fixé, le prix le plus élevé. Engartiasto a expliqué. Selon le ministre Enggartiasto, comme l'effort pour assurer que le riz importé ne sera pas distribué aux centres de production ou bien aux zones productrices de riz, sa partie a fait une visite de travail à Indramayu et à Cirebon. Le ministre Enggartiasto a observé plusieurs entrepôts de Bulog, à savoir l'entrepôt de Bulog des divisions régionales de DKI Jakarta, de Banten, l'entrepôt de Girang, de Tegal et l'entrepôt de Singakarta, Indramayu. À l'entrepôt de Singakarta de la division Indramayu, le stock de riz restant 93 tonnes d'une capacité totale qui atteint 21 500 tonnes. L'entrepôt sera rempli lors de la période de la récolte. Le ministre du Commerce a également visité plusieurs marchés traditionnels pour vérifier le prix des besoins vitaux. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président indonésien Joko Widodo invite la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde, à examiner des sites à Jakarta après la réunion au Palais Merdeka lundi, entre autres l'hôpital central de Pertamina ou RSPP à Kebayoran Baru, au sud de Jakarta. Le président a invité Mme Christine Lagarde à voir les services pour les participants de la Carte de l'Indonésie en santé, ou KIS, et le système de sécurité sociale pour la santé. Le chef de l'État est fier que l'Indonésie ait le programme de services de santé nommé l'Agence de gestion de sécurité sociale, ou BPJS, la santé, et la Carte indonésienne saine, ou KIS. Selon le président, de nombreux pays estiment que le programme d'assurance maladie géré par l'Indonésie est assez grand. Nous voulons montrer que l'Indonésie possède un système de sécurité sociale appelé BPJS et la carte indonésienne saine ou KIS. Je dis que KIS maintenant possède 92,4 millions total pour BPJS. 193,1 millions que nous avons donnés à la communauté. Nous avons déjà montré le système d'assurance maladie à Madame Lagarde. Cependant, Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a apprécié la capacité du gouvernement indonésien à gérer le système de sécurité sociale pour son peuple. À RSPP, ils ont vu l'état de salles de soins de première et troisième classe. En visitant la chambre du patient de troisième classe, le président Jokowi a expliqué à Lagarde que la chambre de troisième classe qui avait la bonne installation était donnée aux patients sans qu'ils aient à payer. La réunion annuelle du Fonds monétaire international et la Banque d'Indonésie en 2018 se tiendra à Bali du 8 au 14 octobre 2018. Le gouvernement et la Banque d'Indonésie continuent de faire des préparatifs avant l'événement international qui sera assisté par 15 000 personnes. Le chef de l'unité de travail de la réunion du FMI et la Banque mondiale en 2018, Peter Jacob, a déclaré que cette réunion devrait être utilisée sérieusement par l'Indonésie pour améliorer le secteur du tourisme, si bien que l'Indonésie en tant que l'hôte peut obtenir le bénéfice. Peter, dans une conférence de presse à Jakarta lundi, a déclaré que le gouvernement avait mis en place les zones touristiques en dehors de Bali comme destination touristique pour les délégués et participants à la réunion. Il y a au moins 6 destinations autour de Bali qui ont été préparées, entre autres Nusa Tenggara West, Nusa Tenggara Est, Tanah Toraja, Lalak Toba, Banyuwangi, et le temple Borobudur. Ainsi, en marge d'une série de réunions, les délégués et les participants peuvent profiter de leur temps en Indonésie en faisant du tourisme. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le cessez-le-feu n'a pas résolu le conflit en Syrie ». Le cessez-le-feu en Syrie est encore question. La pause de bataille déclarée par le Conseil de sécurité des Nations Unies il y a 2 jours exige un engagement fort des parties en conflit pour l'exécuter. De la région de Ghouta, qui est un camp de bataille des 2 parties en conflit, il y a des nouvelles d'une violation des armes. Selon les informations provenant d'activistes humanitaires, il y a eu les attaques aériennes prétendument commises par le gouvernement syrien. L'attaque aérienne qui a eu lieu 30 minutes après le début de cessez-le-feu tuant 2 civils. Avant que le cessez-le-feu ait été déclaré par le Conseil de sécurité de l'ONU, les avions de combat syriens avaient bombardé la région de Ghouta. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la résolution exigeant un cessez-le-feu de 30 jours en Syrie. Ceci est fait pour fournir des opportunités pour la livraison de l'aide humanitaire et l'évacuation de la société civile. Certaines parties doutent de l'application de la résolution établie par tous les membres du Conseil de sécurité parce qu'ils ne sentent pas inclus dans le pourparlers. Le doute est raisonnable, moins d'une demi-heure après le cessez-le-feu, des frappes aériennes ont lieu à nouveau. Par conséquent, on peut dire que la guerre en Syrie est encore imprévisible quand elle prendra fin. Les divers intérêts et forces des étrangers liés au conflit domestique ont rendu la guerre syrienne compliquée et difficile à résoudre. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la proclamation de l'indépendance égyptienne le 28 février 1922. L'Égypte a obtenu son indépendance de la domination britannique en 1922. Sous la pression du mouvement indépendantiste égyptien, le gouvernement britannique proclame la fin du protectorat qu'il avait instauré officiellement en 1914 sur l'Égypte. La Grande-Bretagne dominait déjà le territoire depuis 1892. Le pays acquiert son indépendance, mais son autonomie reste toute relative. En effet, certains domaines tels que la sécurité sur le canal de Suez, la défense et la protection des intérêts étrangers demeurent réservés à la couronne britannique. Après l'abolition du protectorat, l'Égypte deviendra un royaume et le sultan Fouad se proclame le roi. Toutefois, son indépendance ne sera effective qu'en 1936, lorsqu'un accord franco-égyptien sera conclu. L'autre information est sur le nylon a été inventé le 28 février 1935 par Wallace Carodeur. Le nylon a été inventé le 28 février 1935 par Wallace Carodeur, un chimiste américain qui travaillait pour la firme Dupont de Nemours. Le chimiste Wallace Carodeur, employé chez Dupont de Nemours, une entreprise de chimie située à Wilmington, en vente une matière plastique utilisée comme fibre textile. La découverte de la fibre baptisée nylon et sa commercialisation sont annoncées le 27 octobre 1938. Carodeur a commencé à travailler au Dupont Experimental Station en février 1928. Son bout primaire était effectué en synthèse d'un polymère d'une masse molaire supérieure à 4200, ce qui représente la valeur déjà obtenue par Emil Fischer. Il dirigeait quelques chimistes avec doctorat ainsi que de consultants. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement James W. Watson et Francis Crick annoncent la structure chimique de l'ADN le 28 février 1953. James W. Watson est né le 6 avril 1928 à Chicago. En 1962, Watson reçut le prix Nobel de médecine et de physiologie avec Francis Crick et Maurice Wilkins, qui avec Rosalind Franklin ont fourni les données à partir desquelles la structure a pu être résolue. Watson a écrit The Double Helix, A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA ou La Double Hélice ou Comment est découverte la structure de l'ADN, qui a été publié en 1968. Ce livre est le premier ouvrage de vulgarisation scientifique et n'a jamais cessé d'être imprimé. Après son doctorat en 1950, Watson passe du temps en Europe, tout d'abord à Copenhague, puis au laboratoire Cavendish de l'Université de Cambridge. En 1956, Watson accepte un poste dans le département de biologie de l'Université d'Harvard, où le thème de ses recherches était l'ARN et son rôle dans le transfert de l'information génétique. Bien qu'il soit resté un membre de la faculté d'Harvard jusqu'en 1976, Watson prit la direction du Cold Spring Harbor Laboratory en 1968. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonésiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers fidèles auditeurs et auditrices, nous continuons notre émission avec l'Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et le FMI ont discuté de la situation économique globale. Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international ou FMI, s'est rendue en Indonésie lundi. Dans une déclaration écrite à Jakarta lundi, elle a révélé son arrivée cette fois pour discuter des derniers développements économiques mondiaux et de la projection de l'économie indonésienne. En outre, son arrivée est également de discuter de la réunion annuelle du Fonds monétaire international, la Banque mondiale qui se tiendra à Nusa Dua, Bali, octobre. Par ailleurs, la ministre des Finances, Sri Mulyani, qui accompagne le président Joko Widodo lors d'une rencontre avec Christine Lagarde lundi, a affirmé que le gouvernement indonésien et Lagarde ont discuté de la situation économique mondiale, de la croissance à l'économie numérique. Christine Lagarde a déclaré que la situation de l'économie mondiale cette année et l'année prochaine serait relativement stable avec une croissance d'environ 3,9%. Cela offrira suffisamment de possibilités aux pays d'utiliser l'élan de l'économie mondiale considéré suffisant. Cependant, la croissance de l'économie mondiale, dont l'une est causée par le renforcement de l'économie des États-Unis, reste à être veillée car l'inflation augmentera, si bien que cela provoquera l'implication à toute l'économie mondiale. En ce qui concerne l'économie indonésienne, Lagarde a affirmé la croissance économique de l'Indonésie pourrait dépasser 5,3% cette année, encouragée de la consommation, des exportations et des investissements. Le gouvernement de l'Indonésie et Lagarde ont également discuté de la tendance de l'économie numérique dans le monde parce que, selon Sri Mulyani, l'économie numérique continuera à affecter l'économie de chaque pays, de sorte que chaque pays doit être prêt avec divers risques existants de l'économie numérique. La ministre Sri Mulyani a ajouté que la discussion conduit également au problème de la monnaie numérique, à savoir comment le système de paiement et comment le système financier reste à maintenir au milieu du développement économique numérique. Actuellement, la Banque d'Indonésie examine la rupiah numérique. Le président Joko Widodo a mentionné à Christine Lagarde l'une des politiques de l'Indonésie pour préparer l'économie numérique, à savoir à travers l'enseignement professionnel. Cette politique a été saluée par Lagarde. Dans sa déclaration écrite, elle a indiqué que l'Indonésie continuait de prouver sa résilience économique. Elle a demandé au président Joko Widodo et à ses ministres de maintenir la gestion et de renforcer la politique. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. La Russie est prête à aider à renforcer l'armée indonésienne. Madame Christine Lagarde rappelle l'importance de préparation pour faire face à la révolution numérique. Le ministre du Commerce assure que le riz importé ne laissait pas aux agriculteurs. Le président Jokowi invite Christine Lagarde à visiter le RSPP. Il y a des réunions du FMI et de la Banque mondiale. L'Indonésie prépare 6 destinations touristiques en dehors de Bali. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, secrétaire, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter l'une des destinations touristiques à Malang, Java Est. Restez à l'écoute. Malang ne finit jamais d'offrir sa beauté naturelle. Certaines destinations touristiques à Malang sont très intéressantes à visiter, principalement des objets de tourisme cachés. Il y a l'un des objets touristiques cachés qui est visible d'être visité et dont on l'a parlé souvent. L'objet touristique s'appelle Bedengan Malang. un objet touristique qui a un concept de terrain de camping. Serviteurs, si vous êtes amoureux de la nature, Bedengan Malang est un endroit approprié pour vous. Comme terrain de camping, l'endroit a des nuances qui sont encore naturelles. Il y a beaucoup d'arbres ombragés et grands. La rivière qui coule dans la région est si claire et fraîche. Selon les habitants, son nom provient de la cascade de Brou. La zone assez large permet aux touristes d'installer une tente librement. Avant d'être une destination touristique à Malang, Bedengan était une zone utilisée comme pépinière. Les habitants l'appelaient Bedengan, ainsi cette destination touristique est appelée Bedengan Malang. Ces plantes qui sont plantées sont entre autres des orangers. Ainsi, dans cette destination touristique, les touristes peuvent ramasser directement les oranges des arbres. Il y a 12 types d'oranges qui peuvent être choisies. Les oranges qui ont été ramassées peuvent être dégustées sur place ou ramenées à la maison. Bien que la destination touristique de Bedengan Malang soit toujours naturelle, les installations telles que le parking, la mosquée et la salle de repos ont été fournies. Bien que ces installations soient toujours simples, il suffit d'aider les visiteurs. Bedengan Malang est situé au hameau de Selokerto, le village de Selorejo, le district de Dau, dans la région de Malang. Si vous partez de la ville de Malang, vous pouvez atteindre la distance d'environ 25 km. Vous devez passer la rue Joyo Agung jusqu'à Selokerto. En arrivant à Bedengan Malang, vous ne payez que 5000 rupiah par personne. Pour les frais de stationnement, vous devrez payer 2500 rupiah pour la moto et 5000 rupiah pour la voiture. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui avec le titre Bedengan à Malang en province de Java Est. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne. Et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est le Tak Hotel. Je répète, le Tak Hotel, ou en français, l'emplacement de l'hôtel. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation entre Tony et le chauffeur de taxi. Je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Tony: Pak, apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara? Pak, apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara? En français: Monsieur, est-ce que c'est loin d'ici à l'hôtel Mutiara? Le chauffeur de taxi: Ya, lumayan. Ya, lumayan. En français: Oui, assez loin. Tony: Berapa kilometer? Berapa kilometer En français, combien de kilomètres? Le chauffeur de taxi, sekitar 12 kilomètres. Sekitar 12 kilomètres. En français, environ 12 kilomètres. Tony, oh ya, apakah ada pasar tradisional di dekat Hotel Mutiara? Oh ya, apakah ada pasar tradisional di dekat Hotel Mutiara? En français, est-ce qu'il y a de marché traditionnel près de l'Hôtel Mutiara? Le chauffeur de taxi. Ada, Pak. Ada, Pak. En français, oui, il y en a. Tony. Wah, berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? Wah, berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? En français, eh bien, quelle est la distance entre l'hôtel et le marché traditionnel? Le chauffeur de taxi. Mungkin 1 atau 2 kilometer. Mungkin 1 atau 2 kilometer. En français, peut-être 1 ou 2 kilometers. Tony. Oh, cukup dekat ya. Terima kasih, Pak. Oh, cukup dekat ya. Terima kasih, Pak. En français. Bon, à Chypros, n'est-ce pas? Merci, monsieur. Le chauffeur. Ya, Pak, sama-sama. Ya, Pak, sama-sama. En français. Oui, monsieur, avec plaisir. Comme d'habitude, je vais présenter le vocabulaire et les expressions reliant à la conversation d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Jauh, jauh, en français, loin. Dekat, dekat, en français, proche. Cukup dekat, cukup dekat, en français, assez proche. Di dekat Hotel Mutiara. Di dekat Hotel Mutiara. En français, c'est près de l'Hotel Mutiara. Apakah dari sini ke Hotel Mutiara jauh? Apakah dari sini ke Hotel Mutiara jauh? En français, est-ce que d'ici à l'Hotel Mutiara loin? Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? En français, quelle est la distance entre l'hôtel et le marché traditionnel? Berapa kilometer? Berapa kilometer? En français, combien de kilomètres? Sekitar 12 kilometer. Sekitar 12 kilometer. En français, environ 12 kilometers. Ya, lumayan. Ya, lumayan. En français, oui, assez. Mungkin 1 atau 2 kilometer. Mungkin 1 atau 2 kilometer. En français, peut-être 1 ou 2 kilometers. Quand vous voulez savoir la distance entre deux places, utilisez le mot berapa. Vous pouvez utiliser le modèle berapa jarak antara tempat yang satu dan tempat kedua. Je répète, berapa jarak antara tempat yang satu dan tempat kedua. En français, quelle est la distance entre la place 1 et la place 2? Comme par exemple, berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? En français, quelle est la distance entre l'hôtel et le marché traditionnel? Tony, berapa jarak antara bandar udara dan hotel? berapa jarak antara bandar udara dan hotel? En français, quelle est la distance entre l'aéroport et l'hôtel? Tony, berapa jarak antara bandar udara dan pasar tradisional? Berapa jarak antara bandar udara dan pasar tradisional? En français, quelle est la distance entre l'aéroport et le marché traditionnel? Pour répondre à une telle question, vous pouvez répondre en mentionnant la distance, comme par exemple, Tony, berapa jarak antara bandar udara dan hotel? Berapa jarak antara bandar udara dan hotel? En français, quelle est la distance entre l'aéroport et l'hôtel? Une femme, 12 km. 12 km. En français, 12 km. Tony, berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? Berapa jarak antara hotel dan pasar tradisional? En français, quelle est la distance entre l'hôtel et le marché traditionnel? Une femme, sekitar 1 atau 2 km. Sekitar 1 atau 2 km. En français, environ 1 ou 2 km. Vous pouvez ajouter le mot kira-kira, sekitar, ou lebih kurang, si vous n'êtes pas sûr avec la distance. Et ensuite, pour savoir plus ou près de la distance qui doit être prise, utilisez le mot apakah. Vous pouvez utiliser le modèle apakah jauh dari tempat yang satu ke tempat kedua? Apakah jauh dari tempat yang satu ke tempat kedua? Comme par exemple, Tony, apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara? Apakah jauh dari sini ke Hotel Mutiara? En français, est-ce que c'est loin d'ici à l'Hotel Mutiara? Apakah jauh dari bandar udara ke Hotel Mutiara? Apakah jauh dari bandar udara ke Hotel Mutiara? En français, est-ce que c'est loin de l'aéroport à l'Hotel Mutiara? Tony, apakah dekat dari bandar udara ke Hotel Mutiara? Apakah dekat dari bandar udara ke Hotel Mutiara? En français, est-ce que c'est près de l'aéroport à l'Hotel Mutiara? Tony, apakah dekat dari sini ke pasar tradisional? Apakah dekat dari sini ke pasar tradisional? En français, est-ce que c'est près d'ici au marché traditionnel? Pour répondre à une telle question, vous pouvez y répondre selon votre estimation, comme dekat si la distance est proche, jauh si la distance est éloignée. Et bien sûr, vous pouvez répondre tidak tahu si vous ne connaissez pas la distance. Les unités de distance qui sont souvent utilisées en Indonésie sont mètres et kilomètres. Les Indonésiens utilisent rarement les unités kaki ou mil. Si vous voulez décrire les distances, il est préférable d'utiliser des unités mètres ou kilomètres. Chers amis, veuillez répondre aux questions ci-dessous en soumettant d'abord vos solutions. Nama ou nom, negara asal Anda ou pays d'origine, alamat Anda ou adresse. Les réponses peuvent être envoyées à notre adresse email à voy@voynews.id. Je répète, voy@voynews.id.
Chers
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Merci à tous et au revoir.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Merci d'être fidèles à notre antenne. Voici le magazine musical. Et cette fois, nous allons écouter des chansons pop chantées par Angie. Bon, chers amis, écoutez maintenant la première chanson intitulée « C'était l'amour » chantée par Angie. Bonne écoute.
Menguatkan aku.
Voilà la chanson intitulée « C'est l'amour » chantée par Angie. Cette chanson décrit comment l'amour donne de la force. Elle est la première chanson solo interprétée par Angie. Il a commencé sa carrière en solo en 2011. En 2004, Erdian Adi Prihartanto, ou connu sous le nom de Angie ou Manji, avait auditionné pour une compétition de talent dans une des chaînes de télévision privée indonésienne. Malheureusement, il n'a pas réussi l'audition. En 2005, il a rejoint dans le groupe Drive, grâce auquel son nom a immédiatement soulevé dans l'industrie musicale indonésienne. Chers amis, on écoutera la deuxième chanson, dont le titre est « Le meilleur amant ». Bonne écoute.
Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat.
Et voilà la chanson intitulée « Le meilleur amant ». Dans cette chanson, Angie veut illustrer qu'il est le meilleur amant de sa femme qui s'appelle Wina Natalia. Bien que Drive ait rendu Angie célèbre, Mais malheureusement, il a choisi de quitter le groupe Drive en 2011. Et ensuite, il est très actif dans la musique et aussi sur la chaîne de YouTube intitulée Dunia Manji ou Le Monde de Manji. Il télécharge du contenu sur la musique et d'autres choses. Bon, chers amis, pour terminer l'édition aujourd'hui, qui part Anji, écoutons les deux dernières chansons intitulées Lui et Anji et Lance Napadé. Merci à tous et au revoir.
Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Hanya padanya, untuk dia.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu.
Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku. Jadi teman
c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOI. INDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.